Et oui, c'était The Fantastic Harlem Driver, merci pour l'accent, de Josephine Baker, donc la chanteuse c'était Nicole Rochelle, voilà. C'est exceptionnellement l'émission Mode d'emploi qui reprend l'antenne puisque l'émission de SM n'est pas présente ce soir sur le plateau. Je suis donc avec Ludo et Christophe au micro, salut à tous les deux.
Bonsoir.
Rebonsoir.
C'est Gilles bien sûr également, et puis bien sûr Claude à la technique. Nous reprenons cette émission pour une trentaine de minutes, on va essayer de tenir 30 minutes. Voilà, donc il y a quand même quelques sujets encore à traiter. C'est vrai que l'actualité est quand même lourde, très très lourde. Hein. On sent que la guerre va pas tarder à arriver. Hein. Après celle de 14, ça va être celle de 2014. Voilà. Donc.
Mais à l'étranger. Hein.
Mais voilà.
La guerre à l'étranger.
Mais à l'étranger, voilà. C'est comme les centrales nucléaires, loin de chez soi. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on peut parler peut-être de Rapsamen. Donc,
oui, mais dans ce cas-là, je veux qu'on parle de Monsieur Alain Juppé ensuite.
Voilà, très bien. Qui est un personnage quand même haut en couleur, Ludo. Qu'est-ce que tu penses?
Tu insinues qu'Alain Juppé et Rapsamen, même combat, c'est ça?
Oui.
Même combat. Bon, Rapsamen a récidivé.
Oui, voilà.
Sur France Inter, puisqu'il persiste et il signe dans sa volonté de contrôle et d'accompagnement des chômeurs. Donc là, il a mis un peu plus l'accent sur l'accompagnement des chômeurs.
Alors, c'est un mini rétropédalage quand même.
Alors, sûrement, c'est vrai, sans doute. Mais il faut quand même expliquer le pourquoi, quand même expliquer à des gens qui n'ont jamais écouté Mode d'emploi, le pourquoi tout d'un coup les chômeurs, notamment de longue durée...
Doivent être contrôlés, oui.
Non, oui, pas bon, d'accord. Non, enfin, doivent être accompagnés, en fait. Parce que, en fait, il faut se rappeler qu'il y a très longtemps, on avait mis en place... le contrôle mensuel, donc qui impliquait un suivi en fait des chômeurs. Alors le truc, c'est que comment on assomme une machine administrative, c'est que ce contrôle était destiné au départ pour tous les chômeurs, et donc c'était vraiment une volonté de contrôle administratif sur l'ensemble des, notamment des allocataires. c'est ceux qui, à mon avis, répondaient le présent, quoi, enfin des gens qui étaient indemnisés. Or dans le contexte, à la fois dans le contexte de la massification, en fait, quelque part, des contrôles, puisque on peut appeler ça des contrôles malgré tout, hein, le contrôle mensuel, le suivi mensuel des chômeurs. Pôle emploi s'est vite trouvé progressivement débordé, en fait, par l'afflux de chômeurs qui arrivait, et notamment du fait de la crise. Mais même avant la crise, c'était déjà compliqué à mettre en place. Et là-dessus est arrivée la fusion des ACEDIC la future entité qu'on a appelée Pôle emploi, l'ancienne ANPE. Et donc là, évidemment, avec la désorganisation ambiante que provoque ce type de fusion, le suivi mensuel, personnalisé mensuel, hein, de chaque chômeur chaque mois, s'est trouvé évidemment inapplicable, pour autant qu'il l'ait réellement été, ce que je crois pas. Et donc on a ce paradoxe en fait qui a conduit Pôle emploi à vouloir contrôler, suivez bien la valse, ouais, mouvement. Oui. Après le reste, c'est de la
communication. C'est des questions sémantiques qui n'en sont pas, finalement, quelque part.
Eh ben, c'est exactement, parce que un suivi mensuel, finalement, c'est quand même aussi une forme de contrôle, puisque
absolument.
C'est une forme de sanction,
bien sûr. Entendu.
Et dans cette volonté de contrôle systématique du chômeur, on se retrouve avec un instrument qui, en réalité, se trouve incapable de suivre des gens qui en ont réellement besoin, en quelque sorte. Donc, il y a effectivement des gens, une population de chômeurs, celle qui, par exemple, est la plus éloignée d'Internet, celle qui est la plus éloignée
de l'emploi,
de l'écrit, celle aussi qui est la plus éloignée de l'emploi, c'est vrai. Donc, par exemple, des migrants, bon, bah, qui ont leur carte de séjour de 10 ans, par exemple, hein. C'est peut-être ces gens-là, mais d'autres gens, hein, des gens un peu désocialisés, qui ont besoin, effectivement, d'un réel suivi. Or, évidemment, là, les effectifs de l'emploi, ils sont pas capables de répondre à la demande de ces gens-là, et ces gens-là sont obligés, effectivement, d'attendre
qu'on les convoque. Il y a une spécificité parisienne en termes de moyens, mais il y a disposition, c'est qu'effectivement, les personnes les plus éloignées de l'emploi, du fait des besoins sociaux, hein, ça peut être tout simplement avoir besoin de manger, il y a eu l'idée des structures pour l'insertion sur Paris, ce qu'on appelle les espaces pour l'insertion, qui regroupent les travailleurs sociaux, agents d'insertion, assistants sociaux, diplômés d'État, tous, plus des conseillers Pôle emploi agréés qui vont faire un diagnostic conjoint afin d'être de pallier à l'urgence et au plus important, et d'orienter la personne sur éventuellement des associations partenaires spécialisées qui vont permettre, du fait de leur connaissance des problématiques spécifiques, que ça soit dans le domaine de l'addiction, que ça soit dans le domaine du soin psychique, que ça soit dans le domaine du suivi carcéral et tout ce qu'il y a post-carcéral, vont pouvoir réagir et agir sur le cœur du problème et tous ces leviers.
C'est quoi, c'est des plans locaux, c'est des régionales, départementales?
Ça a été une volonté de Madame la maire de Paris contribuer, de Monsieur le maire de Paris précédemment, mais ça c'est une vraie volonté politique du fait de la masse du produit intérieur brut de Paris, hein, et parce qu'il y a beaucoup d'entreprises à Paris.
Évidemment.
Il y a une volonté d'axer sur la notion de solidarité.
C'est quoi, c'est les plis, le plan local d'insertion?
Non. Ce sont des structures spécifiques. D'accord. Avec des conventions de mise à disposition. Alors, c'est une réelle volonté politique. C'est-à-dire que c'est pas
et toi, et toi, tu portes un œil bienveillant là-dessus pour l'instant.
Attention. Attention.
Mais on s'en moque de la vie de Christophe. Je suis désolé.
Parce qu'il faut expliquer. Là, on va être sérieux deux minutes.
D'accord, vas-y.
Il faut savoir que il y a une bataille actuellement politique entre Pôle emploi et les institutions françaises, pour une raison très simple. C'est que Pôle emploi s'est rendu compte que l'argent des fonds sociaux européens lui rapportait au prorata des allocataires, des clients suivis, du portefeuille de clients suivis.
Le terme est joli. Voilà. Et bien choisi.
Non mais bien choisi, plus d'argent que les conventions faites avec l'État français.
D'accord.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, Pôle emploi, au niveau des conventions, a dit, mais aux partenaires européens et à l'Europe, nous, le suivi des RSA, on le fait déjà dans notre agence, les RSA, c'est les bénéficiaires du RSA, on peut le continuer à le faire en plus grand nombre chez nous. Il n'y a pas besoin de diagnostic social, patati patata. Donc, voilà, hein. Donc tout ce qui est lié au diagnostic social et aux freins sociaux.
Là, pour le coup, c'est un scoop là.
C'est une chose.
C'est connu sur la place publique, mais personne n'en parle.
Ça fait partie des négociations qui sont publiées dans les décrets, les conventions, les communications qui sont liées à l'action sociale. C'était un enjeu.
Okay.
Pourquoi je dis ça? Parce que Madame la maire de Paris, elle a souhaité, coûte que coûte, même si ça coûtait, ça rapportait plus d'argent à Pôle emploi, elle a souhaité coûte que coûte que le diagnostic professionnel et social soit gardé dans l'intérêt des gens les plus fragilisés ou éloignés de l'emploi, pour ne pas accentuer cette cassure sociétale qui est liée à la précarité et tout.
D'accord.
C'est une volonté politique. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent
dans les caisses du patronat.
Il y a de l'argent
public
du citoyen parisien. C'est pas simplement le patronat.
Je plaisante.
Les personnes qui habitent à Paris, il y a une volonté politique d'assurer un lien social et de solidarité par rapport à ça. Ce n'est pas le cas dans d'autres conseils généraux. Je te le dis tout de suite.
D'accord.
Je te le dis très clairement.
D'accord. Donc on est privilégié à Paris, en fait.
D'accord.
Tout comme il y a sur Paris des dispositifs techniques spécifiques aux intermittents et aux artistes. Ce qui n'est pas le cas au Conseil général des Yvelines, où il y a un budget très conséquent, où par exemple on dira à des artistes, c'est très bien, aller faire maçonnerie.
D'accord. Non, mais on peut retrouver le même problème pour les SDF, par exemple. Il y a beaucoup plus de structures à Paris, et beaucoup plus de prises en charge à Paris qu'en banlieue ou que dans les autres départements.
Absolument. C'est une volonté. Comme au Conseil général de Seine-Saint-Denis, pour des raisons socioculturelles et historiques.
Et historiques, oui.
Je te le dis clairement.
D'accord.
Maintenant, par rapport à cette problématique du contrôle des chômeurs, il y a. Aujourd'hui, tous les conseillers Pôle emploi qui sont en première ligne sont effectivement débordés par une machine administrative qui leur demande de faire du chiffre et du rendement.
Nous sommes d'accord.
Aujourd'hui, au niveau institutionnel, c'est un fait public. Ça a été déclaré par Madame Lagarde, ultralibérale, qui disait « Oui, un conseiller Pôle emploi qui est en général recruté à Bac+2, Bac+3, c'est quelqu'un de très bien qui gère 60 dossiers par semaine. »
70, elle a dit.
70, voilà. C'est pas vrai.
C'est pas vrai, c'est 150.
La file active est entre 150
et 300 100, parfois aussi.
Et parfois 300.
Certains portefeuilles, c'est 300.
300, oui.
Conséquence, concrètement, les responsables d'équipe, et même, je te parle pas des responsables d'agence, les responsables d'équipe au quotidien, qui essaient de trouver des solutions par l'intermédiaire des réseaux d'entreprise, de faire passer des annonces, de dire tel profil, se retrouvent à gérer une masse de précarité dont ils n'ont pas les moyens en termes de rendement pour aboutir à quelque chose d'efficace. Mais... Donc, ça aboutit à plusieurs choses. Il y a aujourd'hui une connexion entre des dispositifs sociaux, oui, réalité sociale et une forme de suivi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très clairement que pour les personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi, pour des difficultés de santé, mais aussi liées à l'âge, plus de 60 ans, on a de plus en plus recours à ce qu'on appelle la mise à disposition. C'est-à-dire le fait que dans la convention qui lie Pôle emploi et des autres, on n'oblige plus la personne simplement à s'inscrire à Pôle emploi et à rechercher du travail. Parce que il y a des freins sociaux, il y a une histoire, il y a un contexte.
Ça a toujours été le cas quand même, Christophe.
Ça explose. Oui. Ça explose. Oui. C'est une réalité. Il y a de plus en plus de mises à disposition statistiquement. Voilà, déjà, oui, d'une part. Deuxièmement, il y a effectivement de l'argent qui est financé par le Conseil général et le ministère de l'Emploi qui s'appelle le plan local pour l'insertion et l'emploi, le PLI. Le PLI, aujourd'hui, est entre guillemets réservé. Et c'est une expression à prendre avec des pincettes. Réservé, j'ouvre les guillemets, pour les personnes qui sont proches de l'emploi, voire diplômées et qui ont un projet professionnel solide.
D'accord.
Donc, en fait, tu es en train de dire que finalement, les déclarations de Rebsamen, sous le côté provocateur, virage à droite, tout ça, en réalité, ce n'est qu'une. On revient en fait sur les années Sarkozy, enfin Chirac-Sarkozy, oui, c'est en termes de politique vis-à-vis des indemnisés, Pôle emploi. C'est-à-dire qu'en réalité, on constate qu'on ne peut pas suivre tout le monde. En réalité, on constate qu'il est complètement débile de forcer les RMistes ou à s'inscrire à Pôle emploi en quelque sorte, et donc de fait t'as quand même une enfin en tout cas de facto t'as quand même une lâche partie enfin des gens qui pourraient bénéficier de Pôle emploi qui de toute façon ne sont pas concernés, en fait c'est ça,
c'est plus complexe, ce sera c'est-à-dire que l'absence de création d'emplois nets ou qui sont liés à des contraintes diplômantes qualifiantes d'expérience font que des stratégies annexes sont mises en place par les conseillers professionnels et les travailleurs sociaux de fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a mis en place ces dernières années un dispositif qui s'appelle par exemple l'auto-entreprise. On dit aux gens, vendez votre compétence, motivez votre compétence en devenant auto-entrepreneur, alors que l'auto-entreprise...
Mais vous n'aurez pas le droit ni au chômage ni à la retraite.
Non, attends, c'est pas ça là. Alors que l'auto-entreprise présuppose d'avoir un ensemble de connaissances techniques, législatives et juridiques qui font qu'on se transforme pas patron comme ça. Donc on dit aux plus fragiles, pour retrouver un peu de pouvoir d'achat, soyez au top. Vous êtes mal, mais vous devez être au top.
D'accord, donc c'est des plateformes de soutien en fait.
C'est pas des plateformes de soutien. Donc on va orienter des personnes sur des maisons économiques et de l'emploi pour qu'ils deviennent patrons. Des fois ça marche. Mais globalement, c'est des compléments de salaire. Donc on a des paradoxes, on a des gens qui sont sur Pôle emploi, qui sont inscrits au chômage et qui travaillent du jour au lendemain, du matin au soir, parce qu'ils sont en train de monter une boîte.
Oui, mais c'est ce qui est très court.
Très courant. Ce qui est une stratégie annexe liée à un texte législatif qui est l'auto-entreprise. Et le fait qu'on a développé des maisons de l'économie et de l'emploi pour assurer ce type de transition et de stratégie annexe. Tu vois ce que je veux dire?
Tout à fait.
Ça va être... dans les maisons de l'économie de l'emploi, des recrutements spécifiques, par exemple, pour des personnes, on va avoir le marché des mines, pour des personnes de ce qu'on appelle BNQ, bas niveau de qualification.
D'accord.
Ok, merci Christophe. C'était très intéressant, mais j'ai des choses que j'ai apprises, en fait. Voilà. Donc, merci de nous avoir apporté ce scoop sur la table, hein, même si c'est des choses qui sont déjà qui durent et qui perdurent. Hein. Voilà. Donc, je tiens à rappeler quand même qu'en ce moment, il y a un spectacle qu'il faut absolument voir. C'est donc les vendredis, samedi à 20h30 et le dimanche à 16h, c'est le spectacle de Joli Môme. Vous allez rire.
Il s'appelle comment?
14-19, hein, c'est sur la guerre de 14-18, vu par des anarchos, etc., etc., des militants, on va dire. Vraiment un spectacle absolument à aller voir. D'ailleurs, vous allez réentendre dans quelques instants une partie des répétitions que j'ai enregistrées cet après-midi. qui a été monté un peu rapidement avec Claude, mais c'est vrai qu'en même temps, c'était assez bien monté finalement. on s'auto-félicite ici. Voilà. Et surtout, allez venir nous soutenir le dimanche. Je répète un peu l'annonce pour ceux qui viennent nous rejoindre sur cette antenne. Le dimanche 23 novembre 2014 à 17h, une soirée de soutien pour Fréquence Pas Employable, parce qu'on a besoin de sous aussi. Nous sommes une petite radio, donc on ne fait pas de publicité. On est de sympathiques militants, mine de rien, même s'il y en a certains, comme moi d'ailleurs, qui sont parfois un petit peu durs. Hein. Je plaisante. Alors, c'est une diffusion d'extrait du film Lorraine Cœur d'Acier, une radio dans la ville, autour de l'aventure d'une radio de lutte mise en place par des sidérurgistes et des syndicalistes et des habitants de Longwy. Voilà. Il y a également Trous en Nose, je vais essayer de le dire bien là, c'est des punks celtiques au violon. Baf au Torniol, c'est des punks rock rapide. Et Louis Sling et The Bombs, c'est des anarcho-pop rank.
Des punks.
Punk, oh là, oh, des punks. Donc ça se passe au Centre International de Culture Populaire, le 21 Terre Rue Voltaire, métro Nation, de 17h à 22h, donc le 23 novembre 2014. Venez nous soutenir. Le droit d'entrée, c'est le droit pour évidemment les plus démunis, c'est 5€ l'entrée, et puis boisson, je sais plus à combien, mais bon, on va bien se marrer, on va faire du pogo, et ça, voilà, ça nous permettra également de continuer à faire des émissions dans cette radio.
J'apporterai l'esparadra.
Okay, voilà, cette radio, c'est notre cœur un peu à nous, c'est notre pilier, on y a fait nos armes, et puis voilà, bon, un peu de violon pour la fin de cette émission. Donc je vous demande de rester à l'antenne pour écouter les derniers extraits. De ce spectacle de Joli Môme. À vous, Magnéto, merci.
Allez, entrez, messieurs. Prenez les cartes, faites vos jeux. N'ayez pas peur, ouvrez les yeux. Non, vous ne trouverez pas mieux que le poker diplomatique qui va vous rendre frénétique.
Décolte.
Niette. La partie est ouverte. Qui joue?
Oh, I go first. Je joue Tension à Fashoda.
Fashoda? Comment osez-vous? Fashoda, nous y étions les premiers. Je joue Tension diplomatique.
Ha!
Et risque de guerre.
Ha! Relax, mon ami. Détendez-vous et laissez-moi passer.
Certainement pas.
Hey, votre Fashoda, c'est quoi?
C'est un poste militaire au Soudan, en plein milieu du désert. Ces messieurs terminent de se partager l'Afrique.
Quoi? Vous vous disputez pour des nègres? Il fallait m'en demander, j'en ai beaucoup trop.
Fashoda, c'est à moi.
Qui augmente la mise?
Moi.
Nifroviev, j'ai soif. Vodka.
Nikolai, laissez-nous jouer.
Je soif, vodka.
Please, qu'on lui donne à boire.
Ce joueur n'a pas de fond et je ne fais pas crédit.
Nikolai, souscrivez à notre emprunt.
Non, je joue en plein russe.
Donne à boire, un petit donne à boire à notre ami russe.
Hé, hey, je pète la bonne, hein.
Nazdroviev.
Qui relance?
J'avais joué.
Faites.
Je joue guerre contre la Russie.
Comment? Macaque.
Baka.
Impair et passe, monsieur, le Japon gagne. Annexion de la Corée.
Arigato. Nikolai, perdre contre ces faces de citron.
Quelle honte. Mes amis. Trinco, je viens d'acquérir la carte Canal de Panama. Désormais, le commerce mondial passera par moi.
Nous verrons. Je joue.
J'ai pas joué.
Tu as des cartes, toi?
Oui, j'ai la carte du Togo.
Magnifique.
Moi, j'ai aussi celle du Cameroun.
Ridicule.
J'ai aussi la carte de l'Alsace et celle de la Lorraine.
Ouf. Elles sont à moi.
Tu vas te battre.
Oh! Messieurs.
Gentlemen. Comment?
Mais
ce sont ces enfantillages. Ce n'est pas digne de notre toute puissance, comment?
De toute façon, trois cartes ou même cinq, ça ne suffit pas.
Oui, à notre table, il faut des dizaines de cartes. Être un high twirler.
Hey, moi, par exemple, j'ai toutes les cartes de l'Amérique latine.
Sauf celle du Mexique.
Oh, donnez-la moi, je la veux, je l'achète, votre prix à la mienne.
Zapata ne veut pas.
Oh, fuck Zapata, fuck Pancho.
Take je pourrais avoir d'autres cartes.
Les jeux sont faits.
Je m'en moque. De toute façon, mes copains austro-hongrois, ils en ont plein, eux, des cartes.
Des cartes? Des cartes? Je veux des cartes. Je veux cartes des Trois des Dardanelles, accès Méditerranée.
C'était entendu. Tu touches pas à la Turquie. Ce sont mes copains.
Toutou, Nicolas, toutou.
Relax.
Mon ami, si vous ne retournez pas à la place qui vous est attribuée et ne nous laissez pas jouer tranquillement...
Nous lâcherons Nicolas sur vous.
Ah, j'ai une carte. Je peux la jouer?
Oui.
Je joue à Agadir.
Au Maroc.
Où? Si je vous donne un petit bout d'Afrique, vous retirez votre carte?
Bien sûr.
Mes amis, compte tenu de la pression mise par notre bouffeur de saucisses...
Karim, le bouffeur de saucisses.
Je propose une augmentation du pot de guerre.
Are you sure? Une guerre contre l'Allemagne serait très coûteuse.
Et ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Et puis, un spectre entre l'Europe.
Tu vois, je suis toujours là.
Les Rouges!
Une guerre permettrait leur éradication.
C'est ce que tu crois.
Mes amis, nous avons des colonies et l'inépuisable réservoir humain russe. Je joue! Augmentation de crédit de guerre.
MFLC.
Et je joue pareil.
Je joue augmentation du service militaire à 3 ans.
Je m'en moque. Je suis plus nombreux que toi.
Messieurs, la banque pioche une carte au hasard. Attentat à Sarajevo.
Oh.
Assassinat de l'archiduc Ferdinand.
Oh.
Ah ouais, ça on l'a appris en cours, c'est quand l'Autriche attaque la Serbie.
Ah, l'Autriche attaque la Serbie.
Ouais.
Alors je joue soutien mes frères slaves de Serbie. J'attaque Autriche, Hongrie.
Dans ce cas, je joue soutien à l'Autriche. Guerre à la Russie et guerre à la France.
J'en étais sûr. Sale poche. Je joue guerre à l'Allemagne.
Bon, dans ce cas-là, j'attaque la Belgique.
No way, my God. La Belgique est neutre. Guerre contre l'Allemagne.
Messieurs, la banque joue sa dernière carte. Guerre mondiale!
Et moi, je peux jouer. Je décante aussi. Et je joue financement de belligérants. Crédit pour tout le monde.
Donnez-moi Johnny. Johnny Crédit.
Hello.
Bonjour. Je pourrais avoir un crédit?
Bien sûr. Pourquoi faire?
Pour fabriquer des sous-marins.
Très bonne idée. Voilà pour toi.
Donnez-moi Johnny. Johnny Crédit.
Hello. Pour ma marine de guerre. Hey, voilà pour les gars de la marine.
Donnez-moi Johnny. Johnny Crédit.
Hello.
Pour les munitions, l'armement, le ravitaillement.
Oh, très important, le ravitaillement. Voilà pour toi.
Merci.
Johnny, oh, Johnny Crédit.
Non. Pas pour toi. Tu es déjà beaucoup trop endetté. Arrange-toi avec le français.
Si je te donne 45 000 hommes, tu me donnes armement.
Marché conclu.
Hey, Miss Goldie.
Yeah.
Qu'est-ce que tu dirais d'une petite soirée de mon côté de l'Atlantique?
Oh, Johnny.
Il y a une super music qui arrive de Harlem.
Really?
Yeah. Allez-moi, Johnny. Johnny Crédit.
Au Maroc.
Où? Si je vous donne un petit bout d'Afrique, vous retirez votre carte?
Bien sûr.
Mes amis, compte tenu de la pression mise par notre bouffeur de saucisses...
Karim, le bouffeur de saucisses.
Je propose une augmentation du pot de guerre.
Are you sure? Une guerre contre l'Allemagne serait très coûteuse.
Et ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Et puis, un spectre entre l'Europe.
Tu vois, je suis toujours là.
Les Rouges!
Une guerre permettrait leur éradication.
C'est ce que tu crois.
Mes amis, nous avons des colonies et l'inépuisable réservoir humain russe. Je joue. Augmentation de crédit de guerre.
MFLC.
Et je joue pareil.
Je joue augmentation du service militaire à 3 ans.
Je m'en moque. Je suis plus nombreux que toi.
Messieurs, la banque pioche une carte au hasard. Attentat à Sarajevo. Oh. Assassinat de l'archiduc Ferdinand.
Oh. Ah ouais, ça on l'a appris en cours, c'est quand l'Autriche attaque la Serbie.
Ah, l'Autriche attaque la Serbie. Ouais.
Alors je joue soutien mes frères slaves de Serbie. Oh. J'attaque Autriche, Hongrie. Oh.
Dans ce cas, je joue soutien à l'Autriche. Oh. Guerre à la Russie. Oh. Et guerre à la France. Oh. Oh.
J'en étais sûr. Sale poche. Je joue guerre à l'Allemagne.
Bon, dans ce cas-là, j'attaque la Belgique.
No way. My God. La Belgique est neutre. Guerre contre l'Allemagne.
Messieurs, la banque joue sa dernière carte. Guerre mondiale.
Et moi, je peux jouer. Je décante aussi. Et je joue financement de belligérants. Crédit pour tout le monde.
Valera Johnny. Johnny Crédit.
Hello.
Bonjour, je pourrais avoir un crédit.
Bien sûr, pourquoi faire?
Pour fabriquer des sous-marins.
Très bonne idée, voilà pour toi.
Valera Johnny. Johnny Crédit.
Hello. Pour ma marine de guerre. Hey, voilà pour les gars de la marine.
Valera Johnny. Johnny Crédit.
Hello.
Les munitions, l'armement, le ravitaillement.
Oh, très important, le ravitaillement. Voilà pour toi.
Merci.
Johnny, oh, Johnny Crédit.
Non. Pas pour toi. Tu es déjà beaucoup trop endetté. Arrange-toi avec le français.
Si je te donne 45 000 hommes, tu me donnes armement.
Marché conclu.
Hey, Miss Goldie.
Yeah.
Qu'est-ce que tu dirais d'une petite soirée de mon côté de l'Atlantique?
Oh, Johnny.
Il y a une super musique qui arrive de Harlem.
Really?